La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine.
Le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe est encore un énorme succès. Tesla atteint la rentabilité au troisième trimestre. La ville de Dieppe au Nouveau-Brunswick rendra disponible des véhicules électriques pour ses résidents. On parle avec Stéphane Levert, sa chronique Rouler vert, avoir plus d'un V à la maison. Jean-François Morissette et Frédéric Saint-Laurent nous parlent des statistiques de vente des voitures électriques au Québec en date du mois de septembre. Les réflexions branchées de Claude Gauthier ont fait des calculs avec M. Côté. Les événements à venir dans les prochaines semaines. Tout ça et bien plus encore dans ce 67e épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et je suis l'animateur de la balado-diffusion Silence on roule. Silence on roule qui est partenaire de l'AVEC, l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec joie et plaisir que j'anime ce podcast 100% dédié aux voitures électriques. Alors, dans cet épisode numéro 67, mon Dieu, le temps passe vite, hein, c'est effrayant. On ne penserait pas que ça passe si vite que ça. Mais oui, déjà l'épisode 67. On approche tranquillement la centième. On vous prépare quelque chose de spécial pour la centième. J'espère que vous vous en doutez un peu. Ça va être spécial, spécial, spécial. Mais j'en parle, je donne pas de détails tout de suite. On va vous livrer ça là, en temps et lieu. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'épisode d'aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de pain sur la planche. En fait, je vais essayer de tenir ça au minimum. On a deux gros thèmes. Le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe qui a été un méga succès encore une fois cette année. Incroyable comment ce festival-là qui est parti tout petit est rendu un rendez-vous où, mon Dieu, tous les gens intéressés par les véhicules électriques se rassemblent. Plus, encore une fois, plus de 1000 essais routiers faits par les bénévoles sur le site. C'est incroyable. Je vous ai ramassé des entrevues. Donc, on a interviewé des gens sur place au festival pour qu'ils vous livrent leurs impressions. J'espère que vous allez vous apprécier, que ça va vous donner une idée de ce qui se passe dans un salon comme celui-là. Puis si vous avez jamais fait le test d'aller voir un salon du véhicule électrique, vous allez voir, c'est quelque chose que vous devez absolument essayer. Bon, ben je vous le dis souvent, mais c'est encore le cas, hein. On peut nous écouter un peu partout, évidemment, sur le site web de l'AVEC, mais la meilleure façon, c'est de s'abonner, que ce soit sur iTunes, Google Play, Spotify, TuneIn. On est sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. C'est la seule façon, en fait, efficace d'être abonné. Vous allez recevoir automatiquement les épisodes sur votre téléphone avant ceux qui l'écoutent sur le web. Et en prime, vous aurez accès régulièrement à des épisodes hors série. On en a déjà 3 diffusés. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Puis les épisodes hors série sont souvent intéressants parce que c'est juste un sujet. Ça nous permet d'aller un petit peu plus en profondeur. Donc, c'est pas mal intéressant. Et ça, c'est juste pour ceux qui sont abonnés. Donc, il faut absolument le faire. Sur notre site web, là, vous allez sur abonnement.silenceonroule.com. Toutes les informations sur comment vous abonner vont se trouver là et vous n'avez qu'à suivre ces indications, autant pour les appareils Apple que les appareils Android. Alors, sans plus tarder, je vous propose de vous plonger pendant quelques instants dans l'atmosphère du salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Je suis en compagnie de Daniel Breton, co-organisateur du Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Bonjour, Daniel.
Bonjour, Martin.
Écoute, c'est pas votre premier salon, mais la première chose qui frappe quand on entre, autrement plus grand?
En fait, d'année en année, ça grossit à tel point qu'entre la première et la deuxième année, on avait quasiment augmenté 2,5 fois l'espace de salon. Là, on a encore cette année augmenté, puis on a presque 2 fois plus d'exposants en 2019. C'est extrêmement positif. Écoute, la première année, on courait après les exposants. Là, cette année, les exposants venaient nous voir. C'est tout un changement.
Qu'est-ce que le consommateur qui est venu faire un tour l'année passée a vu? Cette année, il va faire le tour, il va voir des nouveaux trucs. Qu'est-ce qu'il y a des nouveautés qu'on peut s'attendre à voir à votre salon qu'on n'avait pas l'année passée?
Oui, il y a des véhicules électriques qui n'étaient pas là l'année passée. Évidemment, Kia Soul EV 2020, ouais. La Kia Niro. Il y a la nouvelle Ford Escape hybride, nouvelle Toyota... Toyota RAV4 hybride, Toyota Corolla hybride. Puis, évidemment, ben, il va y avoir des véhicules québécois. Donc, on va avoir l'autobus urbain de Lyon qui va être ici, qui n'était pas là l'année passée. Il va y avoir le camion de livraison de Nordressa qui va être là. Bref, il y a beaucoup de nouveautés. Puis, on va avoir nos conférences. Puis, évidemment, on ne peut pas passer à côté de la fameuse section d'essais routiers de l'AVEC, qui, soit dit en passant, fait un travail exceptionnel au salon. L'année passée, on a eu presque 1100 essais.
Donc, ouais. On vous souhaite tout le succès du monde, mon cher ami.
Merci beaucoup.
Merci. Je suis maintenant en compagnie de Martin Robinson de l'AVEC. Bonjour, Martin.
Bonjour Martin, ça va bien?
Ça va très bien. Martin au carré, hein? Oui. C'est ça, ça va bien. Écoute, l'AVEC est ici comme dans plein d'événements et votre responsabilité ici pour les trois prochains jours, c'est d'assurer les essais routiers.
Exactement. Alors, on est ici pendant les trois jours. On a une variété, une très grande variété de véhicules qui vont être disponibles à l'essai. Alors, on invite les gens à venir nous voir parce que il peut y avoir des véhicules différents chaque jour. Alors, c'est de venir à notre kiosque et de voir les différents types de véhicules qui sont disponibles et de faire les essais avec nos bénévoles.
Excellent. Et puis, j'ai vu que vous étiez super bien situé. Quand on entre là dans le coin, là, il y a toute une section avec. Pour un événement comme aujourd'hui, là, ben évidemment, là, on est juste avant l'ouverture du salon, mais c'est pas votre première année. Si on regarde l'année passée, ça ressemble à quoi en termes de volume d'essais routiers que vous pouvez faire dans un week-end comme aujourd'hui?
Ben, c'est ça. L'année passée, on a fait environ 1050 essais routiers. Alors, cette année, on essaye là, d'atteindre au moins le 1200. Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'essais routiers. Alors, les gens vont apprécier vraiment la multitude de véhicules et la possibilité de les essayer.
1000, tu parles l'année passée, 1050 essais routiers. Écoute, c'est quand même des trajets qui prennent un certain nombre de minutes à faire. Donc, le même bénévole peut quand même pas en faire 50-60 par jour. Ça prend une colonie de bénévoles assez imposante. Vous avez combien de bénévoles qui peuvent participer dans un événement comme on vit ici ce week-end?
Alors, par bloc d'heures, comme aujourd'hui, ça commence à 13 heures jusqu'à 17 heures, on va avoir environ 25 à 30 bénévoles. Par la suite, de 17h à 21h, encore un autre 20-25 bénévoles. Alors, c'est des bénévoles qui se relaient. Alors, c'est pas nécessairement tous les mêmes, parce qu'évidemment, pendant trois jours de temps, c'est de demander beaucoup de temps d'un bénévole. Alors, ils le font bénévolement, c'est des bénévoles. Alors...
Et c'est leur véhicule ici?
Oui, c'est leur véhicule. Il y a quelques véhicules de concessionnaires, mais il y en a très peu. Alors, principalement, c'est des véhicules personnels.
Ouais. Et ça, c'est différent. Je sais qu'il y a d'autres salons où c'est uniquement des véhicules de concessionnaires. Ici, c'est vraiment les bénévoles qui arrivent avec leurs véhicules. Puis, je trouvais ça intéressant de donner le chiffre parce qu'il y a effectivement énormément de bénévoles, mais en même temps, de comprendre que ça se fait en rotation, comme un genre de corps de travail, là, ce qui fait en sorte que les gens qui pourraient être intéressés de devenir bénévoles, mais qui n'ont pas trois jours à offrir, peuvent quand même, j'imagine, donner, vous avez des plages, puis peuvent dire, moi, je pourrais être là pour ces deux heures-là ou ces trois heures-là, puis je pourrais revenir telle journée, puis finalement, ton week-end, il passe pas au complet, mais tu peux quand même venir donner un peu de temps.
Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on demande pour ce type d'événement-là? Évidemment, pour des événements régionaux, c'est différent. Habituellement, c'est des événements d'une journée. Mais pour un événement de trois jours comme ça ici, qu'est-ce qu'on demande aux bénévoles, c'est de nous allouer un bloc de quatre heures. Et il y a deux blocs de quatre heures par jour. Donc, les gens sont capables de fournir le temps qu'ils sont capables.
C'est pas trop prenant. Et s'il y a quelqu'un qui écoute actuellement, qui a une voiture électrique puis qui veut devenir bénévole de l'AVEC, qui ne l'est pas, mais qui voudrait devenir bénévole, quelle est la bonne façon de faire pour signifier son intention? J'imagine qu'une fois qu'on lève la main pour dire qu'on est bénévole, on n'est pas obligé de participer à tous les événements. Comment ça fonctionne?
Alors, la première chose, c'est de devenir membre de l'AVEC. Alors, on peut soit devenir membre ami ou membre hors. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où ce qu'on est membre, on peut, à l'intérieur de notre profil, identifier les régions pour lesquelles on voudrait être bénévole.
Écoute, Martin, ton titre à la VIC, toi, c'est?
Moi, je suis directeur adjoint de la région Montérégie. Je partage les responsabilités avec Nathalie Daigle, qui est la directrice de la Montérégie.
Bien, je te remercie beaucoup pour tout ce travail-là bénévole que tu fais, puis on vous souhaite un excellent salon. J'ai hâte d'avoir des nouvelles de vos essais.
Bien, à la prochaine. Merci beaucoup.
Votre nom, vous, monsieur, c'est?
Christian Allegret.
Et vous, madame?
Pauline Poitras.
Et est-ce que vous avez fait d'autres essais routiers aujourd'hui ou c'est votre premier que vous faites, là?
Non, le premier, c'était une Chevrolet Bolt.
OK. Puis, avez-vous aimé ça?
Oui, très bien. Oui.
Et là, vous en allez essayer?
Une Kia Soul.
Une Kia Soul. Ça vous dérange si je vais essayer ça avec vous?
Non, pas
trop. On va regarder ce que ça donne. Vous allez me donner vos impressions live. Ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Gênez-vous pas.
Pas de problème.
C'est bon.
Je suis
Bon. On va s'attacher quand même. On va essayer de respecter le code de la sécurité routière.
Bien, c'est sûr. Pour mettre ça sur D, je fais... Tourner la roulette.
Ah!
OK.
Et voilà.
On est parti. Ouais. Ça fait drôle.
Bien, c'est parce qu'on n'attend pas rien.
Oui, on attend le monde qui avance pas.
Oui. Mais le moteur, on s'est emmené, nous autres, puis mon Dieu, la musique, on a oublié de la mettre pas.
Ah, bien, il y a un bon système de son dans celui-là. Là.
Alors, vous, l'achat du véhicule électrique, là, c'est imminent. Vous êtes en magasinage, là?
Ça? Oui, on regarde ça.
Puis, y a-tu des modèles qui vous font de l'œil plus que d'autres à date?
Bien, il y a la Bolt, là, qui m'intéressait, puis la Kia, ça m'intéresse beaucoup.
Quelle voiture tu avais avant, toi, devant celle-là?
La Soul électrique première génération.
Première génération?
Ouais, je l'ai eu 4 ans avant. Okay.
Puis c'est quoi, tu dirais, les grosses différences? Outre l'autonomie, là, c'est ça?
5 ans de différence. Ben, moi, j'avais le modèle de base. Donc, j'avais même pas la recharge rapide.
OK.
J'avais des sièges en tissu. J'avais quand même le volant chauffant et les sièges chauffants. Mais là, il n'y avait rien en cuir. Non, il y a vraiment une grosse coche. Là. La tenue de route, la sportivité même là, de la Soule, celle-là par rapport à l'autre, c'est pas comparable. Il y a 5 ans d'évolution, c'est beaucoup.
Oui, surtout dans ces technologies-là qui bougent vite. Oui,
ouais, ça va vite. Hein?
C'est-tu la première voiture dans votre famille? Ou vous n'avez une voiture à gaz ou juste électrique?
Non, avec celle-là, j'en ai plus.
Ah, OK.
Celle-là, j'ai donné ma Sportage en échange.
Okay.
J'avais une Soule électrique avant.
OK.
Mais la Soule était en location. La location se terminait.
OK.
Fait que là, j'ai acheté la Soule électrique 2020. Puis j'ai donné mon Sportage en échange.
Ah, OK.
C'est des rejons, là. Vous êtes chanceux.
Ouais. Je trouve qu'on est bien assis.
Y a-tu un mode là, qu'on peut mettre? Là?
Oui, driver mode. Là. Si vous pédez là-dessus, là, sur l'écran, ça va être écrit. Là. Là, vous êtes en mode sport. Là, prochain coup. Puis après ça, il y a aussi la régénérescence dans les palettes, là, chaque côté. Là, si vous avez déjà essayé la Corona. Là.
Non, j'ai jamais essayé. Quoi.
OK, là, celle de gauche, c'est pour en donner plus.
Ah, OK.
Ça veut dire que quand vous lâchez le gaz, la pédale de gaz, là, vous allez arrêter par vous-même plus sec que si vous n'enlevez là.
Ah, OK. C'est pas pareil.
Le gauche, c'est pour en ajouter, puis le droit, c'est pour en enlever.
Ah, OK.
Mais le mode sport, il va pas au maximum. Là.
OK. Ben, c'était pas le mode sport en tant que tel que je voulais. Là. C'est qu'elle ralentisse par elle-même.
Oui, ça, c'est avec les palettes de gauche et de droite.
Sur ce modèle de voiture-là, il faut utiliser les palettes.
Okay,
c'est
ça. Puis même, on peut arrêter avec la palette en plus.
Ah,
si
ouais?
Vous tenez la palette enfoncée, on peut dire, là,
okay.
Il va arrêter complètement. Là.
Ah.
Sinon, il va ralentir beaucoup par lui-même.
Okay,
okay. Là, les sièges, il y a tous les ajustements possibles. Là. Si vous êtes le moindrement inconfortable, là, il y a moyen de...
Okay.
Donc, redresser le dossier ou le redresser l'assise avant du siège, ici, ça va être à votre droite. Là.
Comment vous trouvez le confort du véhicule?
Oui, c'est bien.
Je trouve que
l'espace est plus
la
large.
La visibilité, il y a rien. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien qui accorde ça. Là. En fait, visibilité, c'est merveilleux.
Vous n'avez jamais pensé, là?
Pensez parce que c'est une sauce, ça avance pas.
Non, mais
tout électrique. Ben justement, c'est
ça. Vous faites partie de ceux qui avaient le préjugé que les voitures électriques, c'est moins vite ou moins fort. Hein?
C'est là à cause d'aller voir.
Je peux pas dire préjugé, mais disons que j'étais sceptique. C'est vrai pareil.
En fait,
beaucoup plus nerveux.
Une voiture électrique, c'est plus rapide, c'est plus nerveux qu'une voiture à essence. On pense souvent que ça va... C'est parce que ce qu'on a connu d'électrique, c'était des cars de golf, que ça va être moins performant.
Ouais.
Et pourtant, les voitures électriques sont tellement primes qu'ils sont obligés de les ralentir électroniquement parce que de la minute que vous pèsez sur l'accélérateur, les roues tourneraient de tour. Fait que c'est très, très, très rapide, contrairement à ce qu'on pense.
Mais toutes les voitures électriques, c'est comme ça?
Oui,
oui. C'est sûr que la Tesla, c'est le summum. Là. Parce que souvent, c'est quatre roues motrices en plus. C'est quatre roues qui grugent l'asphalte, là, mais...
Mais je donne souvent un exemple à ceux qui me posent cette question-là. Tu sais, que, je leur dis, quand on pense à une voiture puissante puis qui accélère, là, la dernière image qui nous vient en tête, c'est une Spark, une petite Chevrolet Spark. Allez essayer une Chevrolet Spark électrique.
Oh,
vous allez voir que c'est hyper prime. Puis c'est
quasiment dangereux.
Exactement, quasiment dangereux. Puis c'est tout petit.
Oui, c'est pas gros. C'est un site en une, c'est réellement pas gros.
Non, mais il y a du monde avec des Mustangs qui se sont fait plancher sur des coins de rue par des sparks électriques. Ils font le saut, là. Ouais. C'est sûr que si on faisait une course, une piste de course à long terme, la Mustang serait plus puissante. Là. Mais pour décoller rapidement, là, la Spark est impressionnante.
Mais moi, ce que j'avais peur pour les autos électriques, c'était tu manques de... T'as pas de borne proche ou, tu sais... La batterie
Il s'en rajoute à toutes les semaines. Puis avec des autonomies de 400 km, c'est plus. En tout cas, je pense que c'est plus une raison.
Okay.
C'est plus un problème.
Il ne faut pas que vous oubliez que votre voiture, le soir, vous la branchez. Quand vous repartez le matin, tout le temps pleine. Fait que vous avez tout le temps 400 km quand vous partez.
Moi, ça fait 6 mois que je l'ai, puis j'ai jamais été sur une borne publique encore.
Ah non?
Je suis toujours parti de chez nous plein. La semaine prochaine, je vais à Québec.
Tu
as
passé tout droit?
Ben, je suis venu à Tesla. Ouais, c'est correct. Ça, c'est le tour officiel. Excusez-moi.
Mais l'hiver, comment? L'hiver, je veux dire, le chauffage et tout ça, ça prend quand même plus de...
Oui, parce qu'un moteur électrique, c'est beaucoup plus efficace pour la traction qu'un moteur à essence. Le moteur essence va produire de la chaleur, donc cette chaleur-là, elle vient dans l'habitacle pour réchauffer. Mais le moteur électrique, lui, il n'en fait pas de chaleur.
Ouais.
Fait que ça prend un élément chauffant qui prend, qui prend d'énergie. Mais en efficacité énergétique, il n'y a rien qui bat un moteur électrique.
Okay.
On n'est plus à la merci des pétrolières.
Aussi. Mais moi, quand ma location est venue à terme, après 4 ans, je ne me suis même pas posé la question. Jamais je vais retourner à l'essence.
Ah, c'est sûr. Mais écoute-toi que j'ai ça.
Et moi, j'ai une ferme. J'ai hâte d'avoir un pick-up électrique aussi. Là.
Ah oui? Oui.
Moi, je suis grand, fait que je fais 6 pieds.
Je trouve qu'on est bien.
Moi aussi, je suis relativement grand.
Mais... je vais m'abstenir.
Oui, mais lui, il y a beaucoup d'influence dans la VEC.
Oh oui,
ça compense. C'est ça. Martin, ton nom.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Oui, mais elle est vraiment belle.
Oui, franchement.
Il ne nous a pas posé beaucoup de questions. Hein?
Non, moi, j'écoute vos réactions.
Ah,
j'écoute vos réactions.
Je ne peux pas dire, j'aime pas ça. Là. J'aime ça juste pas entendre le son. Je trouve ça extraordinaire.
Oui. Quand on conduit une voiture électrique depuis des années, puis que pour une raison quelconque, on doit prendre une voiture à essence, c'est la première chose qui nous frappe, le bruit puis la vibration.
Pas plus
compliqué
que ça.
Ah,
c'est
très
gentil. Merci.
Ben
oui, merci.
Un plaisir.
Merci beaucoup. Ça fut un plaisir.
Bon magasin.
Pas pire, n'est-ce pas, hein? Et c'est toujours comme ça avec les essais routiers de l'AVEC, c'est-à-dire que c'est une belle organisation, c'est mené de main de maître, les bénévoles donnent du temps, et puis les gens qui veulent venir essayer des voitures peuvent le faire en toute quiétude, sans pression, et prendre le temps là, de poser toutes les questions voulues. Écoutez, avant de poursuivre avec les actualités, simplement vous rappeler que nous avons un concours pour gagner une capuche, vous savez, ce protecteur de port de recharge contre les intempéries, grâce à notre commanditaire macapuche.com. Pour participer au concours, c'est fort simple, nous allons poster tout de suite à la publication de ce podcast-là un message sur notre page Facebook. Message que, dans lequel vous devrez identifier deux amis, taguer comme on dit en jargon, deux amis. Une fois que cela va être fait, nous allons piger dans quelques semaines un gagnant. Ce gagnant-là va être contacté, on va lui écrire par Facebook, là, par Messenger, lui poser des questions, donc avoir son nom complet, son adresse pour lui envoyer son prix. Évidemment, la marque, le modèle et l'année du véhicule pour envoyer la bonne capuche. Et puis finalement, un mot de passe, en fait des mots de passe, les deux mots qu'on doit noter, c'est dans cet épisode-ci qui sont donnés, et c'est « essai routier ». Donc les deux mots là, « essai routier », c'est ça le mot de passe. Donc notez-le si vous participez au concours et on vous invite vraiment à le faire via notre page Facebook. Parce que vous allez être contacté et vous devrez nous donner ces mots de passe-là, essai routier, c'est à garder en tête. Alors, on poursuit tout de suite avec les actualités dans le monde de l'électromobilité.
Quand vous rechargez votre véhicule, protégez votre prise contre les intempéries comme la pluie et la neige. C'est imperméable, très résistant, facile à installer et à enlever. N'endommage pas votre voiture puisque c'est un système sans aimant, même avec anti-vol pour certains modèles. Cette housse protectrice de port de recharge est disponible en plusieurs couleurs, noir, rouge, blanc, bleu et gris. Disponible sur macapuche.com 514-512-4652 macapuche.com.
À la grande surprise de Wall Street, Tesla atteint la rentabilité au troisième trimestre après deux semestres de pertes, créant une croissance de la valeur de ses actions selon les résultats publiés après la fermeture des marchés il y a une semaine. Les résultats du troisième trimestre du constructeur automobile incluent un bénéfice net de 143 millions de dollars, soit 80 cents par action, comparativement aux 311 millions de dollars ou 1,82 par action pour la même période l'année dernière. Tesla a réalisé au troisième trimestre un bénéfice de 342 millions de dollars. Dieppe est l'une des cinq villes francophones de la province du Nouveau-Brunswick à acquérir des véhicules électriques. Avec les municipalités de Brestford, Saint-Quentin, Chipagan et Tracadie, ils participent à un projet pilote visant à mettre des voitures électriques à la disposition des résidents. L'Association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick a lancé le programme pilote visant à réduire l'empreinte de carbone de ses membres. Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, a déclaré que cela faisait également partie de l'objectif de la ville de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En 2016, ils se sont fixés pour objectif de réduire les émissions de GES de 6 % d'ici 2021. Le Model 3 de Tesla devient la première voiture électrique approuvée en tant que Yellow Cab new-yorkais. Tel qu'indiqué précédemment, le véhicule de Tesla devient de plus en plus populaire auprès des taxis aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège, mais il commence à l'être également aux États-Unis avec des flottes comme Columbus Yellow Cab. Nous avons précédemment couvert le tout premier taxi Tesla en Amérique du Nord et Christian Roy, chauffeur de taxi de la ville de Québec, alors que son modèle S avait atteint 160 000 km en 2017. Le meilleur exemple de flotte de taxi Tesla se trouve cependant à Amsterdam, où ils exploitent une flotte de plus de 100 taxis Tesla depuis des années et ont même mis à jour la flotte avec des VUS modèle X l'année dernière. La modèle 3 commence à susciter l'intérêt des compagnies de taxi. Plus tôt cette année, nous avions parlé d'un taxi Columbus Yellow Cab qui avait fait l'acquisition de 10 Model 3 afin d'accélérer l'électrification, dis-je, de sa flotte de 170 taxis. Maintenant, le légendaire taxi new-yorkais pourrait passer au tout électrique avec la Model 3. Une nouvelle conception de batterie pourrait recharger une voiture électrique en 10 minutes. Selon les chercheurs, les recharges rapides donneraient au conducteur jusqu'à 320 km par charge d'une durée de 10 minutes tout en maintenant 2500 cycles de charge. Cela équivaut à plus de 800 000 km tout au long de la vie de la batterie. Du moins, c'est ce qu'indique le communiqué de presse. Tout cela pourrait se faire juste pendant le temps nécessaire pour prendre un café. Les chercheurs croient fermement que cette conception pourrait enfin faire des véhicules électriques un concurrent tout à fait à part égale avec les véhicules traditionnels et éliminer du fait même l'angoisse de l'autonomie qui constitue un obstacle pour l'adoption de nombreux conducteurs. Dans l'étude publiée la semaine dernière, des chercheurs de la Penn State University décrivent une approche asymétrique de la recharge rapide de batterie qui atténue les effets de dégradation naturelle des batteries lithium-ion. C'est en chargeant rapidement à une température élevée, puis en stockant la charge plus lentement à une température plus basse, que l'on solutionne le problème. Les chercheurs ont découvert que cette approche permettrait aux batteries d'éviter les pertes de performance généralement causées par la plaque de la batterie, appelée électroposition du lithium ou croissance SEP pour électrolyte solide, qui se développe généralement avec le temps lorsqu'elle est exposée à la chaleur. Ceci diffère des autres types de batteries lithium qui se rechargent et se stockent à la même température et peuvent prendre jusqu'à 40 ou 60 minutes ou même plus pour compléter une recharge selon la température au moment de la recharge. Les pannes électriques des derniers jours ont fait couler beaucoup d'encre et ont suscité des questionnements en ce qui a trait à l'utilisation des voitures électriques en cas de panne. On veut simplement rappeler à tous nos auditeurs qu'en cas de panne électrique, les stations-service à essence sont elles-mêmes alimentées en électricité qui est requise pour faire fonctionner les pompes, donc les voitures à essence n'ont pas plus accès au ravitaillement. Cependant, un reportage fait par le Journal de Montréal auprès d'électromobilistes qui ont subi la panne nous amène à croire que les propriétaires de véhicules électriques ne regrettent rien de leur choix malgré les pannes de courant qui ont affecté la province il y a une semaine. Les gens ont témoigné disant qu'ils n'avaient pas eu de problème avec leur voiture pour la plupart, que les bornes de recharge sont disponibles à différents endroits, dont des endroits qui n'étaient pas atteints par la panne électrique. On doit juste planifier un peu plus le déplacement, mais c'est assez facile avec les voitures qui peuvent nous indiquer les emplacements des bornes et ainsi que les bornes qui sont en fonction ou hors fonction dues à la panne.
Roulez vert. Avec Stéphane Levert.
Bonjour, ici Stéphane Levert et bienvenue à ma 9e chronique Roulez Vert. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet que je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux et que de plus en plus de gens devront se poser à l'avenir lorsque vous posséderez plusieurs véhicules électriques pour un seul domicile. Même si vous êtes à planifier l'acquisition d'un premier véhicule électrique, ça peut être brillant de tout de suite penser à vos besoins si dans le futur vous en posséderez plus qu'un. Plusieurs options s'offrent à vous. Si vous avez déjà une borne 240 volts de niveau 2 à la maison, vous devrez vous poser la question si vous avez réellement besoin de charger les deux en même temps. Comme dans ma situation, on a deux véhicules électriques à la maison depuis presque un an. Mais j'ai accès à une borne de recharge au travail, donc c'est quand même rare que je doive me charger au complet à la maison. La borne, c'est plus ma femme qui l'utilise quotidiennement que moi. Les rares occasions que je dois me charger pour être plein le lendemain, si je dois faire un long trajet pour me rendre chez un client, en se branchant, en arrivant de travailler, sa batterie est pleine avant que j'aille me coucher. Donc, je branche la voiture avant d'aller me coucher et on a deux voitures avec des batteries pleines le lendemain. Autre scénario possible, utiliser une seule borne 240 volts pour le véhicule dit principal du foyer, plus un chargeur 120 volts pour la deuxième voiture seulement lorsque vous devez avoir les deux voitures en charge en même temps. C'est facile d'oublier que le chargeur qui vient avec la voiture peut servir, mais ça peut facilement servir à l'occasion, même à la maison. Troisième scénario, ça serait de faire d'installer une deuxième borne 240 volts sur un deuxième circuit électrique si votre panneau électrique le permet. Mais souvenez-vous que si vous utilisez 60 ampères dans le cas des deux bornes de 30 ampères, uniquement pour la recharge de véhicule, il faut être certain que votre panneau électrique est capable de le prendre. Déjà que certaines personnes peuvent avoir de la difficulté à trouver de l'espace dans le panneau électrique pour seulement installer une borne, on a juste à penser aux condos ou aux maisons datant d'une certaine époque qui n'ont pas de panneau 200 ampères. Un bon compromis, c'est d'y aller, de se tourner vers la quatrième scénario que je vais vous expliquer aujourd'hui. Ce serait vers des bornes qui ont la capacité de faire le partage de puissance. Le concept est assez simple au fond. Chaque borne a la capacité de fournir la pleine puissance qu'elle est capable de fournir à votre véhicule lorsqu'elle est utilisée seule. Mais dès que vous branchez les deux bornes à vos deux véhicules au même moment, les bornes vont partager le courant pour ne jamais excéder la puissance que votre circuit électrique permet. Je vais vous donner trois modèles de bornes qui ont la capacité de faire ça. Donc le premier modèle, la Flow X5, dite intelligente. Les bornes sont branchées sur le même circuit électrique et ils communiquent ensemble par connexion Wi-Fi pour jamais excéder la puissance que le circuit électrique est capable de faire. Donc, à partir du moment que vous branchez le deuxième véhicule, les deux bornes sont capables de communiquer entre elles pour savoir que les deux sont utilisés en même temps et ils se partagent la puissance. Le deuxième modèle, la EV Duty Smart, qu'ils appellent. Donc, c'est le même concept que la Flow X5 avec une connexion Wi-Fi, Sauf que, détail intéressant, si votre borne EV Duty que vous avez déjà, que vous avez fait installer dans le passé, n'est pas un modèle Smart, mais il y a toujours la possibilité d'ajouter et remplacer une composante à l'intérieur de la borne pour qu'elle devienne intelligente. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter la deuxième qui, elle, va déjà l'être à la base. Troisième modèle de borne ayant cette capacité que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le connecteur mural de Tesla. Celle-ci est différente un petit peu des deux autres modèles. Elle ne fonctionne pas avec une connexion Wi-Fi, mais c'est un câble de communication bas voltage qui est installé entre les bornes. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a une des bornes qui est identifiée comme la borne maîtresse et qui va s'occuper de dicter la puissance que les autres bornes doivent tirer. Donc, Tesla permet même un partage de la puissance entre quatre connecteurs muraux. Donc, pour quelqu'un qui a vraiment beaucoup, beaucoup de véhicules qui se stationnent chez eux ou que c'est peut-être même vous servez de votre maison comme un commerce, quoi que ce soit, que vous avez des véhicules commerciaux, que vous devez en charger jusqu'à quatre véhicules, ça pourrait être une option là, qui serait plausible là, si vos véhicules sont évidemment des Tesla. Donc, si votre modèle de borne n'est pas un des modèles que j'ai parlé dans ma chronique, c'est pas impossible là, qu'elle puisse le faire. Il faut juste vraiment vérifier là, si le manufacturier de votre borne là, est capable de faire cette fonctionnalité-là, de supporter, qui est vraiment le partage de la puissance. Donc, informez-vous là, si jamais c'est pas un des modèles que je vous ai parlé aujourd'hui. Donc, c'est ce qui conclut ma chronique. J'espère que ça vous a plu. D'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route!
Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 Route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
Ici Guillaume André de chez Véhicules électriques Simon-André. Vous écoutez Silence, on roule.
Alors, je suis maintenant en compagnie de Jean-François Morissette et de Frédéric Saint-Laurent. Salut les gars.
Bonjour.
Salut.
C'est la première fois qu'on fait ça à trois. Hein? C'est un gros statement, ça. On va parler de statistiques aujourd'hui. Donc, les statistiques de vente de véhicules au Québec en date du 30 septembre. Pour situer tout le monde qui ne connaîtrait pas Frédéric et Jean-François, c'est nos deux acolytes qui sont responsables de ramasser les informations fournies par les bases de données de la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est une série de chiffres. Et leur job, c'est de faire parler ces chiffres-là, donc de mettre en relation les différentes informations contenues dans les statistiques pour être capable de nous donner des informations un peu plus parlantes. Donc, les beaux graphiques, les chiffres qui sont divulgués partout et que tous les médias reprennent à qui mieux au fil du temps, à chaque fois qu'on sort ces statistiques-là, ben on les doit à ces deux messieurs. Donc, premièrement, merci. Hein, c'est apprécié. Je pense que tout le monde apprécie ces chiffres-là. On va commencer en parlant des ventes globales. Donc, savoir, on en est rendu où au Québec en date du 30 septembre. Jean-François, tiens, casse la glace. On en est où au 30 septembre?
Au 30 septembre, on en est, selon les chiffres officiels, à 60 784 véhicules électriques au Québec immatriculés, c'est-à-dire des véhicules tout électriques ou hybrides rechargeables. Dans tous nos chiffres, quand on dit véhicule électrique, c'est un raccourci pour les deux.
Donc, c'est une information importante quand tu dis immatriculé, c'est-à-dire que nos statistiques sont basées sur les véhicules qui sont immatriculés. Donc, théoriquement, un véhicule aurait pu être vendu il y a 6 ans, 7 ans, et ne plus être immatriculé, puis on ne le verrait pas, c'est ça?
Exactement.
Donc, c'est pas un nombre de ventes. Ben, on peut supposer qu'étant donné qu'il y a des autos électriques depuis quoi, 8 ans ou à peu près, les voitures qui ont été immatriculées le sont encore, mais dans un certain nombre d'années, là, on va perdre dans nos statistiques les véhicules qui ne seront plus immatriculés.
Ben déjà, il y en a certains des modèles qui ne seront plus qu'on voit qui commencent à descendre. Fait qu'il y a pas nécessairement. Il y a les. Oui, mettons que l'auto n'est plus bonne, n'est plus immatriculée et tout. Il y a aussi des accidents. malheureusement, ça arrive de temps en temps. Les déménagements, donc il y a plusieurs choses. Donc, les immatriculations nous permettent vraiment d'avoir le nombre sur les routes, ce qui est finalement la chose importante de
tout
façon.
Tout à fait, tout à fait.
Donc, nos pionnières, là, comme la IMIEV ou la CEMAX Énergie, ils sont déjà en déclin.
Oui, tout à fait. C'est normal un peu aussi, là, soit qu'ils sont plus vendus, plus disponibles ou encore... Il y en a qui ont du vécu, il y a des petites mièvres qui ont du vécu pas mal. Et quand on regarde ce chiffre-là, donc 60 000, et qu'on le regarde globalement par rapport à nos prévisions des deux, trois dernières années, des objectifs du gouvernement, est-ce que c'est un chiffre qui est intéressant? On est-tu en retard? On est-tu en avance? On est-tu on target par rapport aux objectifs de 100 000 véhicules en 2020?
On pourrait dire qu'on est en plein on target, même légèrement en avance. On a une croissance qui reste à 70-75% annualisée là, à tous les trimestres. Là, donc, on suit une courbe assez exponentielle encore.
C'est intéressant parce que ça fait à peu près 6 à 8 mois qu'on ne remet plus systématiquement en doute mon optimisme par rapport à l'atteinte des résultats. Il y a 2-3 ans, on regardait la courbe, puis déjà, on voyait que si cette courbe-là se maintenait, mais les gens regardaient juste le chiffre absolu, puis disaient « Ah ben non, on ne l'atteindra jamais », alors que nous, à l'AVEC, on disait tout le temps « Mais si on ne se rend pas, on ne sera pas loin, en tout cas ». Et là, depuis quelques temps, je pense que le consensus est assez clair. On s'y approche dangereusement. On va revenir tantôt à ce qui pourrait nous empêcher de l'atteindre parce que la courbe est exponentielle, mais il pourrait arriver des phénomènes qui accélèrent ou qui ralentissent cette courbe-là. Si on reste dans le nombre de véhicules, est-ce qu'on a des observations, peut-être, Frédéric, est-ce qu'il y a des observations à faire sur les différents véhicules? Donc, les ventes, si on les prend par modèle, y a-t-il des surprises dans nos statistiques?
Je dirais qu'il n'y a pas de surprise majeure. Ce qui est arrivé était un peu prévisible. Il y a certaines... Donc, finalement, la première position, ça reste toujours la Volt. Elle a ralenti un peu, étant donné qu'il n'y en a plus de nouvelles qui se fabriquent. Après ça, la Leaf a continué une progression à peu près régulière à ce qu'elle faisait depuis un certain temps. Et en troisième position, c'est encore la Prius Prime, combinée avec les quelques premières Prius plug-in hybrid qu'il y avait là, à l'époque.
OK.
C'est, si on veut, en dessous qu'il y a des petits changements.
De quelle sorte ou de quel ordre?
Ben, c'est-à-dire qu'on avait une compétition, disons, appelons-le comme ça, assez forte entre le Model 3, la Bolt, la Outlander plug-in, puis la Prius Prime. Puis là, nettement, la Tesla Model 3 s'est détachée de la Bolt puis du Outlander. On est rendu au même niveau, là, pratiquement 5300 que la Prius Prime. Là. Donc... entre 3 et 4e place, c'est essentiellement à égalité. C'est-à-dire que la Tesla 3, qui est arrivée il y a un an et demi, est déjà en 4e position des voitures électriques les plus présentes sur nos routes au Québec.
C'est quand même impressionnant. C'est très impressionnant même, parce que quand on est dans le haut du peloton, on compétitionne avec des voitures qui sont là depuis pour la plupart du temps, assez longtemps, la Leaf, la Chevrolet Volt, puis des voitures qui se sont vendues en grande quantité. Ça veut donc dire que le rythme de vente de Tesla se démarque actuellement des autres manufacturiers.
D'autant plus que c'est un modèle un peu plus cher que ces modèles-là. Hein.
Tout à fait. Donc, c'est pas le prix qui est le frein dans ce cas-là, hein, force est d'admettre. Est-ce qu'il y a des... au contraire, est-ce qu'il y a des marques qui, elles... semble s'en aller vers un déclin ou une descente en termes de popularité?
C'est ça. Il y a la Volt qui définitivement va être appelée à descendre parce qu'il s'en fait plus. En fait, je dirais, probablement les ceux qui sont vraiment en baisse de popularité, c'est les ceux qui se font plus. Sinon, les autres suivent à peu près leur tendance qu'il y avait. Il y a des petites variations, mais on ne voit pas de gros changements drastiques.
Ouais.
Okay. Il y en a qui vont un petit peu plus vite, un petit peu plus lent. C'est peut-être juste un peu plus ou moins de demande, mais rien de clairement, oups, lui, il arrête de façon inexplicable.
En réalité, depuis 2-3 trimestres, il n'y a pas beaucoup de nouveautés non plus sur le marché. Là. Fait qu'on est un peu dans un statu quo où les bons joueurs continuent à performer, puis les anciens modèles stagnent. Puis il manque un peu de nouveautés.
Ouais. Puis dans les nouveautés, on a eu entre autres le Kona il n'y a pas tellement longtemps, le Niro. Le Kona apparaît dans le palmarès des 15 plus populaires. Le Niro, non. Est-ce que ça veut donc dire qu'il s'est vendu ou qu'il y a eu. S'en est moins vendu, pas nécessairement parce qu'elle est moins convoitée, mais peut-être parce qu'elle est moins disponible à ce moment-là que le Kona, parce qu'il y a quand même une bonne différence de vente entre le Kona et le Niro.
Oui, mais je dirais que le Kona est probablement un des rares nouveaux modèles de cette année qui a percé. Qui en a en ce moment, il me semble, à peu près 1600 sur les routes, à peu près.
Oui.
Donc, lui, il a clairement... Puis, c'est une progression à peu près linéaire depuis le début de l'année. Donc, à peu près un nombre similaire à chaque trimestre.
Il est arrivé un petit peu avant le Niro électrique aussi. Là. Il y en a eu qui sont apparus, je pense, sur les radars dès janvier. Donc, ça a coïncidé avec le début de l'année. Visiblement, il y avait une offre disponible au début. Là, je pense que ça fléchit un petit peu. Puis le Niro, c'est très, très lent son entrée là, pour un modèle qui devrait être compétitif avec le Niro.
Tout à fait. Puis c'est un modèle, en tout cas, de ce qu'on entend parler. Il y a beaucoup de gens qui en veulent un puis qui sont sur une liste d'attente. Je pense que la disponibilité joue vraiment... vient vraiment faire une jambette, dans le fond, au nombre de véhicules sur les routes. On voit que même qu'il y a plus l'hybride branchable, se trouve avoir un peu plus de popularité que le tout électrique.
À deux fois plus.
Deux fois plus. Ce qui m'amène à parler justement de cette saine compétition entre l'hybride branchable et l'électrique. Là, on vient de basculer pour la première fois avec un ratio de tout électrique plus grand que l'hybride branchable, si je ne me trompe pas.
Dernière fois, on était... Un tout petit poil, justement, genre juste 0.01 ou 0.02, là, mais c'était à peu près égalité. Mais là, maintenant, effectivement, c'est 50,75% pour les 100% électriques versus hybride rechargeable. Ça fait un bout de temps que la tendance était à la hausse pour les 100% électriques. Mais là, maintenant, on va voir le futur, mais ça continue à la hausse.
Ben, pour le futur, il y a beaucoup de gens qui allaient vers l'hybride branchant parce qu'ils avaient besoin d'autonomie et que les voitures sur le marché ne correspondaient pas à leurs besoins. Avec l'arrivée des voitures à plus grande autonomie, 400-500 km, on peut présumer qu'il va y avoir un exode, une érosion de vente des hybrides branchables au profit des voitures électriques à haute autonomie.
Surtout qu'au Québec, il y avait la Chevrolet Volt qui était vraiment très populaire, qui était l'hybride branchable par excellence, qui est plus produite. Donc, elle constituait un pourcentage un peu démesuré de la flotte québécoise.
Si maintenant on regarde la répartition de ces achats-là sur le territoire québécois, qu'est-ce que l'analyse des données du dernier trimestre nous permet de constater? Donc, de façon générale, là, quelles sont les tendances?
Les tendances sont un peu au beau fixe, encore une fois, je dirais, là, depuis quelques trimestres. Donc, Lanaudière, qui est notre région qui a adopté le plus rapidement la voiture électrique, reste la championne toute catégorie. On a une part de marché, disons, de 1,4%. C'est-à-dire que si on prend toutes les voitures enregistrées dans Lanaudière, il y a 1,4% de ces voitures-là qui sont électriques, alors qu'au Québec, on tourne probablement autour du 1%. Ensuite, il y a la Montérégie qui suit de près. Puis on voit aussi l'Estrie-Laval... Et les Laurentides dépassent aussi le 1% estimé de la flotte. Donc, ces régions-là sont en avance sur les autres, mais je dirais que dans le dernier trimestre, il n'y a pas vraiment de différence. La croissance est assez similaire d'une région à une autre.
Évidemment, on sait que dans les premières années des véhicules électriques, étant donné que l'autonomie était petite, ça a été peut-être plus facile aux gens qui habitaient dans les grands centres comme Montréal puis Québec d'adopter cette voiture-là parce que leurs habitudes de déplacement étaient de façon générale sur des plus courtes distances, alors que les gens en région ont souvent à se déplacer sur des longues distances, donc étaient un peu réfractaires à passer à la voiture électrique. Là, avec l'arrivée des voitures à grande autonomie, est-ce que vous croyez que ça va un peu favoriser le fait que les gens en région adoptent un peu plus la voiture électrique parce que ça pourrait répondre un peu mieux à leurs besoins?
Définitivement, la réponse est oui, mais je mettrais quand même un « mais ». Parce qu'il reste encore un manque de diversité au niveau des formats. Puis on sait qu'en région, il y a peut-être des attentes encore plus grandes qu'en ville pour avoir des formats un peu plus utilitaires,
par exemple,
ou même éventuellement le pick-up ou les fourgonnettes. Donc ça, c'est pas tout à fait encore présent sur le marché. Fait que ça explique peut-être aussi une partie de la différence dans l'adoption, dans le rythme d'adoption.
Également, la répartition géographique des gens par rapport à des grands centres, outre le fait de conduire longtemps, je dirais, le fait, par exemple, d'aller travailler tous les jours pour quelqu'un de la rive sud ou de la rive nord à Montréal, puis la même chose avec Québec, donc être en banlieue, ça peut favoriser le fait d'avoir un véhicule électrique parce qu'à tous les jours, on a à faire une quantité de kilomètres, par exemple, qui n'est pas très grande, 50 km, 60 km, 80 km, notre aller-retour, alors que des gens qui sont un peu plus loin, ben vont soit travailler dans la ville où ils demeurent ou vont avoir à faire plus de distance pour aller travailler. Donc, on sent qu'il y a comme, quand on regarde là où c'est populaire, vous parlez tantôt, Lanaudière, la Montérégie, c'est des grappes qui sont autour des grandes villes. Je pense que ça pourrait peut-être expliquer ce phénomène-là quand même. Puis il y a aussi, géographiquement, il y a plus de population qui reste dans ces coins-là.
Mais demeure que les statistiques qu'on fait, c'est par rapport au nombre de véhicules sur la route. Donc, qu'il y ait beaucoup de personnes dans une région ou pas, n'a pas vraiment... ça n'affecte pas le classement d'habitude
qu'on parle très souvent. Ça peut favoriser le fait que dans cette région-là, par contre, les gens ont des habitudes de vie qui sont plus compatibles avec la réalité d'une voiture électrique. En tout cas, ça va être de moins en moins vrai avec les grandes autonomies, mais quand on avait une voiture de 200 km d'autonomie, pour quelqu'un qui a affaire régulièrement 400 km de route, ben ça ne marchait pas. Là, ça.
Il y a peut-être aussi le phénomène de... j'ai déjà parlé à certaines personnes, justement, par exemple, d'Abitibi. Pour eux autres, un véhicule 100% électrique n'était pas envisageable parce qu'il avait besoin de venir à Montréal de temps en temps. Alors que la plupart du monde à Montréal, il y en a quelques-uns qui vont en Abitibi de temps en temps, mais probablement beaucoup moins souvent que le monde d'Abitibi vienne à Montréal. Et l'architecture de borne de recharge en ce moment au domaine, ben, je ne sais pas s'ils sont maintenant actifs, mais jusqu'à très récemment, c'était un peu problématique parce qu'il y a juste du niveau 2. Donc, il fallait être prêt à patienter quand on passait par là.
Fin du mois de novembre.
Fin du mois de novembre?
Ça devrait être à fin du mois de novembre.
Tu vois, si on veut parler au-delà des régions, on peut même parler des villes. Les villes avec les pourcentages de pénétration les plus élevés, là, on parle, ce sont des villes, surtout sur l'île de Montréal, Westmount, Ville-Mont-Royal, on s'approche du 3%, Beaconsfield, Hampstead, là, l'ouest de l'île. Mais après ça, nos autres championnes, là, ben, c'est les villes de la couronne de Montréal, là, des Boucherville, des Terrebonne, des Mascouches, des villes comme ça, effectivement, qui là, le sweet spot, excusez l'anglicisme, là, semble effectivement correspondre à ce que tu disais, Martin.
On avait un ratio, pas normal, en tout cas, plus élevé que la moyenne, entre autres dans la région de Rawdon, puis on l'attribuait à l'effet bourgeois qui est dans ce coin-là. Est-ce qu'ils sont encore... un petit peu hors norme par rapport aux autres villes ou du coin, où ça tend à s'atténuer un peu?
Les gens sont encore supérieurs, mais effectivement, ils se démarquent plus autant qu'ils se démarquaient à l'époque.
Je pense que l'effet de la Chevrolet Volt, ça fait peut-être sentir ici.
Oui, puis il y a maintenant beaucoup de concessionnaires qui capitalisent sur la voiture électrique et qui le publicisent.
Qui ont suivi son exemple, finalement.
Exactement. Je pense que Bourgeois a... pour continuer des anglicismes ou dans les expressions, a tapé la trail assez solide, puis d'autres voient maintenant que c'est un avenue, puis s'annonce comme étant des leaders en vente de voitures électriques, donc il n'y a plus juste Bourgeois qui le fait, mais quand même, c'était quand même phénoménal de voir que cette petite bourgade-là ait ce niveau de.
La Naudière reste devant.
Ouais, la région reste championne encore. Qu'est-ce qu'on est capable de tirer comme conclusion ou comme prédiction à la lumière des analyses que vous faites avec les chiffres qu'on a au dernier trimestre? Est-ce qu'il y a des éléments à surveiller ou des points là, qui vous viennent à l'esprit à l'analyse de ces chiffres-là?
Moi, personnellement, c'est oui, l'objectif de 100 000 est atteignable tant que l'offre tient. J'ai l'impression que ça va être le nerf de la guerre, l'offre. Parce que le nombre de gens que je rencontre qui disent que j'ai été intéressé par le modèle X, mais il n'est pas là avant Y mois.
Oui, par modèle X, tu ne parles pas de la Tesla.
Non, oui, non, excusez, oui, je parlais de la variable X en mathématiques,
oui,
désolé.
C'est une légère nuance. Effectivement, puis je le constate régulièrement, moi, qu'il y a des gens qui attendent leur voiture, on a des bons chiffres, mais quels auraient été ces chiffres si 60% des gens qui voulaient une auto électrique avaient pu l'acheter au moment où ils la voulaient? Quels seraient les chiffres aujourd'hui? Je ne m'attends pas à une réponse de votre part, mais ce que je veux juste illustrer, c'est qu'on a des excellents chiffres dans un contexte où une grande majorité des acheteurs potentiels doivent attendre. C'est quand même phénoménal. Il faut le souligner là, parce qu'on a une croissance. Qu'est-ce que serait cette croissance-là si on était capable de fournir à la demande?
C'est difficile à dire. Je pense qu'on serait au-dessus de 100% de croissance. Là. Je pense qu'on peut, on peut dire ça sans trop hésiter. Là. Le nombre de monde qui veulent des Nissan Leaf, des Kia Niro, des Hyundai Kona est assez impressionnant. Puis ces modèles-là vont pas plus vite que le marché, sinon moins parfois. Donc, clairement, il y avait de la place. Est-ce que 2020 va être différent? Je me posais la question, tu parlais de là, Frédéric, mais il y a aussi la loi zéro émission. Il faudra voir...
qui vient qu'à affecter l'offre.
Ouais. Il y aura peut-être un peu plus de mordant en 2020. Je ne suis pas au courant assez. Il faudra se pencher là-dessus.
Il y avait plus de mordant en 2019 qu'en 2018. Il y en aura plus en 2020 qu'en 2019. Et encore plus. Toutes les années, ça augmente. Mais maintenant, même avec l'augmentation, est-ce que ça sera suffisant? Ça va sûrement augmenter un peu la disponibilité, mais je pense qu'elle pourrait être encore plus forte, on pourrait augmenter encore plus. Je ne suis pas sûr que ça va être suffisant, puis d'après moi, on va avoir encore des files d'attente. Là, mais...
Il y a aussi la question des incitatifs. Est-ce qu'il va y avoir encore des changements? Là, 2019 a été une année de gros changements, mais là, le politique, on ne sait jamais à quoi on peut s'attendre. Donc ça aussi, ça vient toujours changer la donne aussi.
Tout à fait. L'objectif de 100 000 voitures, c'était l'objectif... sur laquelle se rattachait... En fait, il y a eu trois partis politiques qui se sont attachés à ça. Là. Ça a commencé péquiste, libéral, puis là, on est rendu caquiste. C'était « Nous maintiendrons les incitatives jusqu'à l'obtention de 100 000 véhicules ou 2020. » Donc, puisqu'on va l'atteindre, qu'arrivera-t-il? On va maintenir, on va supprimer, on va réduire, on va transformer. On n'a pas de boule de cristal, on ne le sait pas. Mais effectivement, tout ça va avoir des impacts. Une question qui me vient à l'esprit, parce qu'on parle d'incitatif, là, puis je pense qu'on pourra conclure là-dessus. On a vu, la dernière fois qu'on s'était parlé, on voyait déjà l'impact de la subvention fédérale. On attribuait certaines interprétations à l'impact de la subvention fédérale. Elle est toujours là, la subvention fédérale. Par contre, est-ce qu'on a suffisamment de levier? Parce qu'on revient tout le temps au même point, il n'y a pas d'auto disponible. On a augmenté les subventions, mais là, on a peut-être décollé une couple de personnes qui hésitaient, que là, ils se disaient « OK, j'y vais », mais si leur auto n'est pas disponible, ils n'achèteront pas plus. Est-ce qu'on est dans une espèce de cul-de-sac où on tire trop du côté de la promotion à aller faire l'acquisition, mais pas assez sur les incitatifs à rendre disponible? Autrement dit, on tire par un côté, mais on devrait pousser par l'autre maintenant. Parce qu'on va plafonner.
C'est ça, pour pousser de l'autre côté, finalement, ça serait la loi zéro émission qui, plus elle va avoir de mordant, plus ça va aider. Mais où est-ce que tu parlais plus justement de malus qu'il y aurait pour les autres types de véhicules?
Toutes ces réponses sont bonnes, en fait. C'est que si on ne change rien, par exemple, si les subventions restaient telles quelles pendant encore 5 ans, mais qu'on n'augmente pas la disponibilité ou très peu, à la même vitesse qu'on augmente la demande, nos courbes vont rester essentiellement les mêmes. Fait que là, moi, ce qui me fait peur, c'est que, au contraire, peut-être qu'il va y avoir des changements où on va moins inciter les gens à acheter, les subventions pourraient changer. Et si ça arrive, nos courbes pourraient descendre. Maintenant, à court terme, l'obtention du 100 000 véhicules, c'est pour l'année prochaine. Quand on regarde vos courbes, vous dites que les chances sont très bonnes. Il faudrait qu'il se passe quelque chose. D'après moi, on va l'atteindre. Mais après ça, moi, c'est le après. Tu sais, je suis déjà en train de regarder le après. Je me rappelle que même les libéraux avaient repris le 100 000 véhicules pour 2020, mais ils donnaient des objectifs aussi 2023, des objectifs 2025. Et là... Il continuait sur la même lancée exponentielle, donc l'objectif était d'atteindre essentiellement, éventuellement, le million de véhicules.
Pour 2030,
Pour 2030, est-ce qu'on va réussir à atteindre ces chiffres-là? C'est une excellente question à laquelle on ne peut pas répondre personne, je pense.
Si on fait juste regarder la courbe, il y avait un objectif de 300 000 pour 2027, 2026, aux alentours de ça. Mais si on garde exactement la progression qu'on a, c'est hyper facile à atteindre. C'est quasiment trop facile. Donc, j'ai l'impression que malheureusement, on ne pourra pas garder cette progression exponentielle. Une manière, il risque d'avoir quelque chose qui va...
Okay.
Parce que ça semble être trop beau. On verra. Si c'est le cas, je vais être le premier à être heureux. Mais...
Ouais, c'est comme on dit, c'est à suivre. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour le travail que vous faites. On l'a déjà dit, mais je le répète, les chiffres qui sont fournis par la SAC facilement, on a un total, là, mais c'est à peu près tout. Je veux dire, pour être capable de donner, puis de réfléchir, puis de voir les beaux tableaux qui sont disponibles sur le site de l'AVEC, ça prend de l'analyse, ça prend... faut mettre en relation les données entre elles pour les faire parler, puis c'est ce que vous faites, puis les gens sont capables d'apprécier. Puis moi, je vous le dis, j'ai été porte-parole média longtemps pour l'AVEC, et je vous dirais, bon, pas toutes les semaines, là, mais 2 à 3 fois par mois, j'ai des journalistes qui m'appelaient, qui me posaient des questions, puis je leur disais la réponse sur notre site web, je les amenais sur le graphique et je leur montrais, parce qu'ils disaient « j'aimerais avoir les chiffres pour telle ville ou telle région », puis je leur donnais du coaching au téléphone sur comment aller chercher, puis ils disaient « ah ouais, c'était tout là, Colin, avoir su, ça fait plusieurs fois qu'on cherche ces infos-là ». Donc, je sais que les données sont utilisées sur une base régulière par des journalistes, par des gens qui préparent des reportages ou des analyses dans différents médias, donc c'est très convoité, puis en même temps, bien, ça nous permet d'avoir une meilleure... un meilleur aperçu à la fois de la flotte de véhicules puis de où sont situés les électromobilistes au Québec. Fait que pour une association comme la nôtre, c'est des informations qui sont méga importantes. Fait que, au nom de l'AVEC, merci beaucoup. Hein?
Ben, ça fait plaisir.
Puis est-ce qu'on se reparle dans 3 mois?
Pour oui. Le bilan de l'année?
Pour le bilan oui. De l'année, ça sera le fun. Hein? On va pouvoir rapper les 12 mois et là, regarder sur une perspective annuelle plutôt que de trimestre. Là, ça pourrait être bien intéressant.
Exact.
Frédéric Saint-Laurent, Jean-François Morissette, merci beaucoup, messieurs.
Un gros merci.
Un gros merci à toi aussi.
Les réflexions branchées de Claude Gauthier.
Alors, bonjour tout le monde et bienvenue aux réflexions branchées de Claude Gauthier. Et je suis toujours avec mon invité spécial, M. Côté. Ça va bien, M. Côté?
Ah oui, ça va super bien.
Bon, aïe... Monsieur Côté, vous savez, on a parlé de bien plein d'affaires, là, puis on a parlé beaucoup d'environnement. Je suis très surpris de votre réponse. Mais, à ce soir, je voulais vous montrer autre chose.
Pas de problème. C'est quoi que tu veux me montrer, là? Tu me fais apprendre plein d'affaires. Hein? Moi, je pensais pas rendre à mon âge. J'allais apprendre plein d'affaires comme ça.
Ben, ce que je vais vous montrer, là, c'est parce que c'est ma soeur qui voulait changer d'auto. Puis elle m'a dit que... En tout cas, elle m'a donné les modèles, là, qu'elle ça y Ça y tentait. Puis là, j'ai commencé à calculer ça. Saviez-vous, si je vous dis, admettons, un véhicule électrique là, de 45 000 $, puis si je le compare avec une auto-essence de 22 000 $, c'est sûr que ma soeur regarde son auto longtemps. Là. Elle m'a dit qu'elle allait la garder environ 10 ans.
Hey, c'est à peu près comme moi. Mon GM, là, ça fait encore bien plus longtemps que ça que je l'ai.
Ouais, je sais que... Il commence à être dû, hein, un petit peu?
Ben, quand même pas pire, là. Il marche encore.
Ouais, OK. Fait que là, c'est ça, je calculais ça. Puis sur 10 ans, imaginez-vous bien que c'était moins cher de prendre le véhicule électrique que l'auto à essence.
Ben, voyons donc, oui. Hey, 45 000, puis là, tu me dis, quel prix déjà pour le prix à gaz?
Ben, le véhicule à essence, là, on parlait d'un véhicule là, qui coûte environ 22 000 $.
Hey, voyons donc! Hey! Écoute, Claude, là, je sais que je suis un peu vieux, là, mais je sais quand même compter, là. Hey, ça se peut pas!
Ben, écoutez-moi bien, là, je vais regarder bien, je vais vous montrer ça. Là, j'ai un petit fichier Excel, là, que je vais rentrer là. Fait que là, vous voyez, ce que je fais, c'est que je rentre les chiffres, donc 22 000 $, qui est une... ma soeur voulait s'acheter une Honda Fit. Fait que je suis allé voir sur le site d'Honda, vous voyez là, ici, là.
Ah oh, oui, je vois ça, là!
Bon, ben là, j'ai rentré ça, le prix avec la livraison, tout ça. Puis dans mon fichier Excel, regardez bien. Là, si je vais chercher, admettons, Hyundai Kona, là, la version de base. Puis regardez, vous voyez le chiffre en bas?
Oui!
Lequel des deux qui est le plus haut?
Ben, je sais pas, là, il y en a un qui est à 54 000, puis l'autre à 48.
Ben, c'est en plein ça. Vous voyez, celui-là à 54 000, ben, c'est l'auto à essence.
Ben, voyons donc, ça se peut pas!
Ben, c'est parce que là, on calcule l'essence, on calcule les changements d'huile, on calcule, il va y avoir des frais minimes, mettons, pour l'entretien, mais disons que les véhicules électriques vont avoir moins besoin d'entretien. Donc, c'est pour ça que ça arrive aussi comme ça.
Ben, voyons donc, ça se peut pas!
Ben, tu me comptes les mentries, là! Je me compte pas de mentries. Regardez, c'est dans le fichier Excel. Oui? Oui? OK. Ce sera pas long, je reviens. Bon, allez, voir ce qui se passe, là.
là, il veut me niaiser. Attends un peu que je check ça. Il a dû rentrer quelque chose quelque part qui est pas correct. Ça, ouais, ok. Là, il a rentré. Consommation. Ça doit être un peu. Ouais, c'est marqué 7 litres au 100. Tabarnouche, hey, 7 litres. S'il savait comment mon pick-up dépense, ça n'a pas de bon sens. Ok. Ça, c'est correct. Ok, ça aussi. Ouais, moi, il n'y a pas près chaud. Je fais 22 000 km. T'as peu, ouais, là, Steph m'a changé ça, moi. T'as peu. Tiens, 19 000 piastres. Hé! T'es encore plus cher! Mais voyons donc! Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça n'a pas de bon sens. T'as peu. M'attendre un petit peu.
Pire, ce côté, est-ce que vous commencez à me croire?
Ben, je trouve juste à dire, Claude, que j'étais pas sûr, là, mais...
Comment ça que, hein? C'est rendu 19 000. Avez-vous touché à quoi, monsieur Côté?
Non, j'ai rien fait.
Bon, ben, en tout cas, vous voyez, même à 19 000, là, ça veut dire que l'auto est à peu près comparable, les deux, si on la calcule sur 10 ans. Qu'est-ce que vous dites de ça?
J'en reviens pas bien, bien. Je pensais jamais que ça allait être comme ça.
Fait que, voyez, il n'y a pas juste l'environnement qui est bon pour... voyons, les véhicules électriques sont bons pour l'environnement. Les véhicules électriques sont aussi bons pour votre porte-monnaie.
Hey, je comprends! Avoir su ça, moi, m'en serais acheté un ben avant, j'aurais bien plus d'argent à ma pension.
Ouais, fait que s'il y en a d'autres qui veulent calculer, allez-y, on a le fichier Excel qui est sur le site de l'AVEC. Vous allez pouvoir faire exactement les mêmes calculs que moi puis Monsieur Côté. Donc à la prochaine.
Hey, salut tout le monde!
Voici les quelques événements restants d'ici la fin de l'année. Évidemment, la grosse saison des événements tire un peu à sa fin pour l'AVEC avec la venue du temps froid. Mais disons qu'il nous reste encore quelques événements, dont samedi le 9 novembre de 10h à 16h, l'événement branché vers l'avenir chez Euracine au 1080 rue Douglas à Saint-Jean-sur-Richelieu. Des essais de véhicules électriques, kiosques d'information, conférences, le tout nécessitant une pré-inscription sur Roulon électrique. Conférence à voiture électrique, un survol électrisant. J'ai deux dates de prévues. La première, le 14 novembre à 18h30 à la bibliothèque Armand Frappier. C'est à, sur la rue Saint-Thomas à Salaberry de Valleyfield. Et j'en ai une autre de prévue le 18 février à 19h. Cette fois-là, c'est à la bibliothèque de l'Île-des-Moulins au 855 place de l'Île-des-Moulins à Terrebonne. Venez en grand nombre. Ceci complète la présente balado-diffusion. J'aimerais remercier tous mes collaborateurs aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Daniel Breton, Martin Robinson, Frédéric Saint-Laurent, Jean-François Morissette, Stéphane Levert et Claude Gauthier. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais j'apprécierais en être avisé. Toute question concernant l'émission peut être adressée à martin@silenceonroule.com et toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'AVEC peuvent être envoyées à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens en visitant le archive.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et j'espère que d'ici le prochain balado, vous attraperez la piqûre et pourrez dire, vous aussi, silence, on roule!